Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère, c'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous et bienvenue à cet épisode du mois de février. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous autres, sur la ferme, ça va super bien. En fait, c'est comme la première fois qu'on vit ça, mais on vit comme un croisement entre deux saisons, disons. On a fait nos premiers semis il y a deux semaines, puis en même temps, on fait nos premières ventes hivernales de façon stable. Fait que c'est comme intéressant de voir comment est-ce qu'on gère ça. Pour vrai, ça se passe super bien. C'est sûr qu'avec le développement de notre volet hivernal, ben on a eu quelques surprises, vu que c'est notre première année, disons, sérieuse à ce niveau-là. Puis on va pouvoir vous en donner des détails à l'épisode du 1er avril. Mais généralement, ça a vraiment bien été, puis les serres sont encore vraiment belles. Puis voilà, alors j'ai hâte de vous partager ça. Mais pour l'instant, je vous partage un deuxième épisode avec Jonathan Burdelin, le coach, le farmer coach, qui, je crois, est vraiment pertinent. Alors, j'avais décidé de diviser en deux parties l'entrevue avec Jonathan parce que, tant qu'à moi, il y a juste trop de bon contenu. Alors, dans cette deuxième partie, il y a aussi une division, disons, en deux parties également, une sous-division, appelons ça de même. La première partie, ça s'adresse vraiment aux fermiers qui sont en cours de production, qui ont une ferme. Ça parle des croyances limitantes courantes chez les fermiers et fermières, puis de principalement, en fait, de l'évolution du rôle entre artisan et celui d'entrepreneur. Dans un deuxième temps, disons la face B de l'entrevue, on parle plus aux aspirants maraîchers. Donc, Jonathan aborde qu'est-ce que c'est le changement? À quel point est-ce que démarrer une ferme, c'est un grand changement? Puis comment on fait pour moduler les paramètres de ce changement-là? Fait, moi, j'aurais quand même aimé entendre ça avant de démarrer. Fait que si jamais vous êtes parmi ces gens qui aspirent à avoir une ferme, je vous propose de prêter une oreille attentive. Ça peut peut-être donner des petites pistes de solutions sur comment faire en sorte de vivre un beau démarrage alors que normalement, ben on voit ça comme une étape assez difficile. Puis Jonathan nous donne quelques conseils pour modifier ça, en fait, moduler ça à notre main puis faire de ça une étape qu'on va quand même apprécier. J'en profite pendant qu'on se parle hein, pour vous proposer d'écouter un webinaire que moi-même et Vincent Lafleur, mon collègue, on va donner. En fait, si vous écoutez ce balado-là pendant le mois de février 2021, je vous invite à vous inscrire à notre petit webinaire qui va répondre à 5 questions que les gens en démarrage se posent. Fait que c'est des questions qui concernent les cultures en serre, les légumes les plus difficiles à produire, la concurrence entre fermes, la nécessité d'avoir une formation pour se démarrer dans notre domaine, puis les éléments qui, tant qu'à nous, facilitent le démarrage. Pour s'inscrire à cette formation-là, vous devez aller sur notre page Facebook, dans le haut, dans le fond, sur notre photo de couverture, cliquer sur l'image qui indique ce webinaire-là qui a lieu le 24 février à 16h. Puis, lorsque vous cliquez, à votre droite, vous allez voir un lien pour pouvoir vous inscrire. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je pense que Vincent puis moi, on va se faire vraiment du fun à répondre à des questions qui nous ont été soumises par des gens qui sont en démarrage. Puis, ces questions-là vont sûrement résonner avec des questions que vous avez vous-même. Alors, juste vous rappeler, c'est le 24 février à 16h. Puis, l'inscription, ça se fait dans le haut de notre page Facebook pendant le mois de février. Donc voilà, sans plus attendre, je veux remercier les partenaires de notre balado. Donc dans un premier temps, il y a bien entendu Dubois Agrinnovation, qui est le partenaire principal du balado que je remercie et dont je vais vous parler en plein cœur de l'entrevue. Dans un deuxième temps, il y a Climax Conseil qui nous permet de produire des tomates et des concombres de façon stable, qui nous permet d'avoir des produits de qualité dans nos serres tropicales. Moi, personnellement, je ne me partirais jamais une ferme sans avoir leurs conseils. C'est vraiment des personnes fiables à qui se référer. Et dans un troisième temps, il y a les équipements Tivierge qui non seulement offrent un super bon service à la clientèle, mais en plus, ils offrent des outils super solides du Québec. Ça non plus. Je pense que je ne voudrais pas avoir une ferme sans leurs outils, donc je les remercie d'exister tout simplement et je les remercie aussi d'être partenaires du balado. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter ça. J'espère que ça va nourrir vos réflexions, puis que vous allez être capable de mettre en pratique certains conseils de notre farmer coach, Jonathan. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Hey, j'aimerais ça savoir, là, on parle depuis tantôt de croyances limitantes. T'as-tu des exemples? Tu sais, toi, ça fait quand même quelques années que tu coaches des gens, puis toi-même, t'as pu observer ton propre cheminement de pensée au travers de ta vie de fermier. Tu sais, as-tu des exemples de... C'est quoi les grands classiques, là, des pensées limitantes qu'on peut avoir en dedans de nous, tu sais, en tant que fermier, fermière, dans ce rôle-là, dans le fond? Si tu veux, moi, je peux me mouiller. Je vais me mouiller puis parler d'une croyance limitante que je sais que j'ai eue. Qu'au début de la ferme, j'avais une croyance extrêmement bien ancrée en dedans de moi qui était de ne pas avoir une mentalité d'abondance, en fait. J'avais vraiment peur du manque. Pour moi, là, c'est sûr qu'on n'allait jamais faire assez d'argent pour se salarier les quatre. Pour moi, c'était acquis. Mais évidemment, c'était une fausse croyance, tu sais, c'était... À ce jour, on se salarie, donc c'était faux. Mais pour moi, c'était ancré en dedans de moi comme une vérité, tu sais. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de petites vérités que les fermiers et fermières peuvent avoir tendance à intégrer, mais que dans le fond, ça peut s'avérer faux, tu sais. Ça peut s'avérer être uniquement des croyances qui sont limitantes dans leur existence, là.
C'est tellement important de prendre conscience des croyances limitantes puis de pouvoir les nommer comme telles. Pas parce que on va, OK, tout à coup changer, puis waouh, ça va être comme, tu sais, l'éclair de Dieu qui va revenir, puis on va se complètement changer. Mais plutôt parce que c'est des symptômes de la voix du petit singe. C'est que quand on reconnaît qu'on est en train de penser une pensée qui suit certains patterns, puis je vais les nommer, c'est un bon indicateur que peut-être c'est pas la voix de la sagesse. Donc, les croyances limitantes comme typiques là, ou communes, tu sais, il y en a pas tant que ça. C'est vraiment comme t'as nommé le manque d'abondance, tu sais, comme on appelle en anglais scarcity. Donc c'est cette notion que j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de capacité, puis j'en aurai jamais. Tu sais, c'est tous ces pensées qu'on va prendre un concept futur, puis c'est comme si on le vivait déjà dans le présent. Tu sais, c'est une anticipation démesurée de l'avenir. Ou c'est comme de revivre le passé, t'sais.
Oui, mais on crée une réalité qui, malgré nous, correspond à cette pensée limitante-là, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'on veut se protéger, essentiellement. Parce que ça, tu sais, les croyances limitantes, c'est notre cerveau de Cro-Magnon qui est là pour nous garder en vie. Donc, il veut vraiment limiter les risques, il veut garder la continuité, parce que tout changement, même si c'est un changement d'une situation actuelle qui est néfaste ou désagréable, tout changement est un plus grand risque. Une situation actuelle connue, déplaisante, est moins risquée que de changer quelque chose vers un futur potentiellement mieux, mais certainement inconnu.
Mm-hmm. As-tu d'autres exemples de croyances limitantes?
Ouais, donc c'est ça, c'est le manque d'abondance, on va parler de manque de temps, manque d'argent, c'est comme je l'ai déjà nommé, une honte du manque de performance, de dire « Hey, tabarnouche, comment ça que j'ai pas... Comment je devrais être capable de faire ça, tu sais? » Comment ça que François Enfield, il fait pour être XYZ? C'est la comparaison, right? Quand on va commencer à se comparer à quelqu'un d'autre, c'est vraiment, vraiment, vraiment un flag orange là, pour dire « Hey, ça, c'est une croyance limitante. Ça, c'est la voix du singe quand on commence à se comparer. »
Ben oui, ça nous fait sentir tellement mal, tu sais.
C'est vraiment inutile parce qu'on est en train de comparer notre vie intérieure à la vie extérieure de quelqu'un d'autre. On est en train de comparer quelque chose que nous, on connaît intimement de notre vie intérieure, nos peurs, nos manques, tout ça, versus ce qu'on est capable d'imaginer chez quelqu'un d'autre.
Mm-hmm. Je pense qu'on fait tout ça, tu sais. C'est tellement toxique.
Oui, puis c'est tellement... Ça, c'est vraiment une pensée limitante, bien une voix du petit singe très, très commune. C'est normal. Puis c'est ça que je veux dire aussi. C'est on n'est pas obligé de se sentir mal d'avoir des croyances limitantes. C'est normal, tu sais. Ça fait partie de notre évolution. Si on y pense, nous, on est comme les descendants des gens les plus paranoïaques, les plus limités du passé. Parce que tout le reste, les gens qui étaient comme « Ouais, je m'en vais dehors, je quitte la caverne », se sont fait manger par un tigre. Nous, on est descendants des gens qui ont dit « Hey non, aujourd'hui, je sors pas, j'ai un mauvais feeling », tu sais. Fait que, c'est ça. C'est normal d'avoir ces idées-là. Puis on n'est pas obligé de d'en faire un groupe là, c'est juste d'en prendre conscience puis de dire, ah ouais, en ce moment, je suis en train d'avoir une pensée qui est peut-être pas vraiment ma voie de l'abondance.
Ou qui est pas vraiment constructive, tu sais, de se comparer à quelqu'un d'autre puis de se sentir mal, on s'entend que c'est pas vraiment constructif, là.
Ouais.
Mais c'est normal. Absolument. Moi aussi, je le fais, tout le monde le fait. Mais crime, c'est dommage.
C'est ça. Puis on met des gens sur un piédestal et surtout dans cette ère de Instagram, de Facebook. Je veux dire, oui, on est en train de projeter des images, on est en train de monter, si on veut, on est une marque, c'est comme si on est chacun une marque de commerce à quelque part, tu sais, on est en train de monter une image, de qu'est-ce qu'on est, de qu'est-ce qu'on fait pour la mise en marché, pour etc., etc., Y, Z. Et non, on va généralement pas projeter des choses au public comme nos peurs intérieures, nos angoisses, nos inquiétudes.
Nos échecs, tu sais.
Ouais. Et c'est vraiment pour dire comme l'effet médias sociaux, oui, il y a une partie qui est comme consciente qui est à travers les médias sociaux, mais c'est aussi un métaphore de dire quand on regarde quelqu'un, on voit juste la version polie de eux. T'sais, on voit juste le côté extérieur, le côté qu'on peut ultimement, ce qu'on voit chez les autres, c'est quelque chose, c'est ce que nous, on est en train de projeter, c'est quelque chose qu'on admire, c'est une qualité qu'on aimerait cultiver en nous. Quand je regarde quelqu'un, puis j'imagine qu'il fait tellement de projets, qu'il doit être vraiment bon dans sa gestion du temps, qu'il doit vraiment être intelligent, il doit avoir des feuilles Excel vraiment, vraiment hot, là, ou bien Google Sheet vraiment, vraiment hot. Ben, ultimement, ça, c'est plus une réflexion sur qu'est-ce que moi je trouve important, puis les intentions que j'aimerais nourrir en moi,
ben oui,
que une réflexion de lui qui il est, tu sais.
Ben, exact. Il y a une des croyances limitantes qu'on a parlé hors enregistrement que tu parlais, c'était la vision de notre rôle en tant que fermière. Tu parlais d'une vision qui se décline entre le fait d'être artisan ou entrepreneur. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de ça. Peux-tu me décrire cette vision qui se différencie en fait dans notre rôle?
C'est surprenant quand je travaille avec des clients, que ça soit une petite ferme de un demi-acre ou une ferme de 75 acres de légumes ou un restaurant ou whatever. La transition la plus commune que les gens vont faire appel à moi en tant que coach pour travailler, c'est vraiment cette transition entre artisan et entrepreneur. Et donc, l'artisan, c'est quelqu'un qui fait chaque étape de son produit. Tu sais, c'est le cordonnier qui fabrique la meilleure botte à chaque fois en cuir italien et tout ça. Right? Donc, et versus l'entrepreneur, le rôle de l'entrepreneur, c'est de bâtir les systèmes qui vont permettre de perpétuer l'entreprise et de créer de la valeur à travers les systèmes qu'il a bâtis.
Mm-hmm.
Et cette différenciation-là est vraiment, je sais pas si je l'appellerais une croyance limitante pour des maraîchers, mais c'est vraiment une transition que je vois que beaucoup de gens sont rendus à faire. C'est ce shift de, est-ce que je me vois comme artisan ou je me vois comme entrepreneur?
Mm-hmm.
Et il y a toujours une place aussi aux deux. Et voilà, tu sais, encore une fois, cette notion des rôles. T'sais, dans mon rôle d'artisan, dans mon rôle de producteur, je vais être au champ, je vais être en train de planter, je vais être en train de faire des choses et je savoure et j'apprécie ce moment-là. Mm-hmm. Et en même temps, je reconnais que j'ai un rôle d'entrepreneur. J'ai le rôle de capitaine de l'entreprise, d'architecte pour développer les systèmes et structurer le développement de l'entreprise.
Oui, et puis je pense qu'avec les années, les proportions de chacun de ces rôles-là qui se côtoient intimement changent, tu sais. Peut-être que plus que des années avancent, plus qu'on endosse le rôle d'entrepreneur, un petit peu moins le rôle d'artisan, ce qui est quand même en quelque chose dans la naturalité de l'évolution d'une entreprise.
Oui. Et la croyance limitante là-dedans, c'est que je peux pas changer. Right? C'est ouais. Qu'il y a comme, OK, non, être maraîcher biologique, c'est être artisan. Je sais, je suis un artisan de la terre, je suis un paysan. Et comme, oui, OK, c'est des concepts qui sont intéressants, qui sont utiles, jusqu'au moment où ils sont plus utiles. Est-ce que cette pensée est utile en ce moment?
Est-ce qu'elle me sert, oui?
Oui. À quoi elle me sert? Parce que des fois, elle me sert à rester dans le présent, à rester dans la sécurité du connu. Oui, je fais pas beaucoup d'argent. Oui, je suis épuisé. Mais au moins, je sais que j'avance. Puis la ferme existe. Puis ouais, OK. Versus, OK, je m'en vais vers quelque chose de différent. Puis je me vois dans un différent rôle. Des fois, c'est à ça que ça sert. Et de voir qu'il y a certaines idées, certaines croyances qui ont eu leur utilité à un certain moment dans le temps et qu'en ce moment, elle est peut-être plus utile.
C'est ça qui sont désuètes, ouais.
C'est comme le métaphore du moine bouddhiste qui est en train de monter vers les Himalayas et il arrive à une rivière et il construit un radeau avec des bûches et tout ça. Il l'utilise pour traverser la rivière. Il est rendu de l'autre bord. Il le met sur son dos puis il continue avec pour monter la montagne. C'est comme le radeau, c'est des idées, c'est des croyances qui nous ont été utiles à un certain moment. Donc, le rôle de l'artisan et l'idée de l'artisan est super utile au début. Quand on est en train d'apprendre, quand on est en démarrage, quand on n'a pas nécessairement les capacités ou les moyens d'engager une équipe, quand on se fait encore, on est en train de développer nos systèmes et notre capacité, oui, à ce moment-là, on est l'artisan, on touche à chaque étape de la production et c'est normal. Et à un moment donné, il y a comme une transition qui se fait, comme tu dis, avec le temps, on devient plus entrepreneur et moins artisan. Et le côté où c'est limitant, c'est quand on reste dans des idées qui ont été utiles un jour, mais qui en ce moment sont moins utiles. Un des défis quand on veut faire cette transition-là, un des défis quand on veut transitionner de artisan à entrepreneur, c'est qu'on est tellement habitué à tout faire nous-mêmes qu'on pense pas que d'autres personnes peuvent le faire. On se dit, ah non, moi là, ça, c'est juste moi qui est capable de faire ça. Right? Alors, ce que j'invite les gens à faire souvent, c'est de se créer un tableau. En fait, hey, ça pourrait être le fun pour les auditeurs de le faire, c'est de se créer un tableau avec où on met toutes les actions qu'on fait, toutes les tâches qu'on fait dans une colonne. Et ensuite, on va les catégoriser. C'est soit que c'est facile à déléguer, difficile à déléguer, ou bien c'est mon super pouvoir. Right? Parce que c'est comme cette notion de forcer les gens à dire, OK, c'est-tu vraiment mon super pouvoir? Tu sais, faire la comptabilité, c'est-tu mon super pouvoir? Mm-hmm. Parce que ça en est un classique. Ah non, je peux pas déléguer la comptabilité. Et oui, je suis d'accord. Dans certaines circonstances, ça peut être difficile à déléguer. Mm-hmm. Je suis complètement d'accord. Mais de dire, hey, c'est-tu vraiment mon super pouvoir?
Là-dedans, il y a la notion de confiance. OK, par exemple, c'est une tâche, bon, que c'est pas notre super pouvoir, qu'on sent qu'on peut déléguer, qui est une tâche réversible, parce que je pense que c'est quand même une notion importante, là, qui est pas irréversible. Mais de se dire, hey, parfait, j'ai suffisamment confiance pour lâcher prise. Je décide de ne pas avoir le plein contrôle. Il y a ça, non? Dans le fait de déléguer?
Absolument. Quand on délègue, c'est t'sais, il y a différents éléments qui sont importants de bien former la personne, de faire un suivi, d'avoir des systèmes pour encadrer la personne, pour avoir des attentes claires sur qu'est-ce qu'on veut que cette personne, le résultat qu'on veut qu'elle crée, plutôt que les moyens qu'on veut qu'elle prenne pour l'accomplir. Et à un moment donné, oui, c'est vrai, c'est comme, ça sera jamais fait exactement comme on veut le faire. Mais à un moment donné, si on veut, avoir une entreprise où on génère un surplus de temps et d'argent pour être capable de consacrer cette énergie-là à d'autres aspects, ben à un moment donné, il faut que ça soit fait un peu moins bien. Je sais que c'est bizarre à dire parce qu'on veut toujours faire ça mieux, mais à quelque part, il y a comme cet équilibre à avoir entre est-ce que c'est fait la manière que je veux le faire versus c'est quoi le résultat que je m'attends, c'est quoi les objectifs de cette tâche-là et c'est quoi le degré de précision que j'ai besoin. Par exemple, si... dans l'exemple, mettons qu'on aurait quelqu'un qui serait en charge de nettoyer un gymnase, tu sais. Puis, si on lui dit, OK, ta job, c'est de passer le balai. Ça, c'est vraiment comme déléguer une tâche. Versus un rôle. On va déléguer un rôle. On va dire, ton rôle, c'est de produire un gymnase propre à chaque matin. Et ça ouvre toute une panoplie d'options et de créativité chez cette personne-là. Peut-être qu'il va passer le balai, peut-être que ça va être la mop, peut-être qu'il va inventer une machine, peut-être qu'il va mettre une pancarte qui dit « Enlevez vos bottes avant d'entrer dans le gymnase. » Tu sais, c'est comme, il y a toute une panoplie d'options qui se présentent et c'est vraiment ça, c'est une des ressources importantes qu'on regarde pas, c'est la créativité. On a besoin d'avoir des systèmes dans nos entreprises qui sont capables d'aller chercher la créativité de nos employés de manière encadrée. Pas, je vais être créatif puis tout à coup, ma botte de carottes, elle pèse juste 300 grammes, tu sais. Et c'est ça l'objectif des systèmes et des procédures. C'est de créer un contexte et de créer la structure dans laquelle on peut faire évoluer les systèmes de manière ordonnée.
Procurez-vous les meilleurs contenants de récolte chez Dubois Agrinovation. C'est le partenaire principal de la vie maraîchère. La plupart de leurs cuves et paniers sont des grades alimentaires et conformes aux réglementations en vigueur pour y entreposer des fruits et légumes. Les contenants de plastique sont faciles à nettoyer et à empiler, tout en diminuant le risque de moisissures et de maladies.
découvrez la section dédiée au contenant au www.duboisag.com. www.duboisag.com et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 200$ ou plus en ligne.
J'aimerais ça qu'on parle un petit peu des gens qui sont sur le point de lancer leur entreprise parce que le balado qu'on est en train d'enregistrer est dédié à eux aussi. Donc, j'aimerais ça qu'on parle, c'est ça, pas juste aux gens qui ont actuellement une ferme, mais aux gens qui aspirent à en avoir une. Hors enregistrement, on avait parlé de ce que c'est le changement, de la nature du changement, puis j'ai comme l'impression que les gens qui se démarrent, c'est un très gros changement qui s'en vient dans leur vie. Fait que comment est-ce qu'ils peuvent anticiper ce changement-là?
C'est un énorme changement. Et il y a des éléments qu'on peut comprendre, il y a des éléments qu'on peut anticiper, puis il y a d'autres éléments qu'on peut même pas anticiper. Alors moi, ce que j'ai développé avec mes clients de coaching, c'est vraiment comme un genre de théorie de la nature du changement. Et donc, c'est comme d'habitude, c'est un triangle, parce que moi, j'aime bien les triangles. Il y a vraiment trois aspects. Il y a à la base, on va parler, un bord, il y a l'amplitude du changement. Donc, à quel degré c'est un grand changement? Et à quel point c'est rapide. Donc, si on prend le degré de changement, si on veut, l'amplitude du changement, c'est vraiment comme le degré du changement fois la rapidité. Donc, si on fait un grand changement vraiment lentement, ou bien si on fait un petit changement très, très rapidement, ça revient un peu à la même chose. Donc, c'est des concepts, c'est pas des mathématiques, right? Donc, c'est d'un bord, on a l'amplitude du changement. L'autre bord, on a le risque potentiel. Donc, si on a un échec, qu'est-ce qu'on peut perdre, essentiellement? Les risques qui sont impliqués. Et le troisième bord du triangle, on parle des compétences.
OK. Fait que démarrer une ferme, c'est ça a une grande amplitude parce que c'est un grand changement qui, la plupart du temps, arrive sur une courte période, mais ça peut aussi être modulable. Ça peut être sur une plus longue période.
Oui, absolument. Et vraiment, moi, ce que je vois dans ça, tu sais, on a les trois aspects. On a l'amplitude du changement, le risque et la compétence. Et c'est comme, dès qu'il y en a deux sur trois qui cloche, ben ça fait comme un flag orange, puis faut comme faire un peu plus attention, tu sais, dans le sens que si l'amplitude du changement est très grande, comme par exemple dans un démarrage, bon, ben premièrement, on peut mitiger l'amplitude du changement en y allant graduellement, tu sais, que ça soit graduel dans l'échelle de production ou dans le temps, qu'on garde un emploi à temps partiel, ça peut être une autre option. Mais vraiment, l'amplitude. Comment qu'on peut gérer l'amplitude? À chaque fois qu'on gère un changement, il y a trois aspects qu'il faut considérer. Il y a le risque, il y a l'amplitude du changement, puis il y a la compétence ou la qualification qu'on a pour gérer ce changement-là. Essentiellement, il faut au moins avoir deux sur trois. Parce que si on a quelque chose qui est risqué, ben, il faut être sûr d'avoir la compétence et de gérer l'amplitude du changement. Donc, gérer dans le temps ou gérer dans le degré. Bien de l'autre bord, si on n'est pas compétent, ben, tu sais, faut gérer le risque puis faut gérer l'amplitude. Ou bien s'il y a quelque chose qui est vraiment un grand changement, ben, faut regarder comment qu'on peut avoir le maximum de compétences pour gérer ce changement-là, ou bien comment qu'on gère le risque. Donc, pour quelqu'un en démarrage, il faut se dire, OK, ben, c'est un grand changement, c'est sûr, right? Donc, comment qu'on va regarder ces choses-là? Compétences. Premièrement, il faut être compétent. C'est pas à cause que vous avez lu Le Jardinier Maraîcher que vous pouvez lancer une ferme. Je répète, lire Le Jardinier Maraîcher n'est pas assez pour partir une ferme.
Non, non, c'est ça. C'est comme n'importe quel autre métier. On dirait qu'on voit le métier de maraîcher comme étant un métier super simple à mettre en application, mais tu sais, c'est comme être dentiste. Là, on devient pas dentiste en écoutant une vidéo de 3 heures. Là, tu sais, c'est ça.
Exact, ou plombier, ou whatever, right? T'sais, oui, il y a des vidéos sur YouTube qui vont nous parler de comment réparer une fuite de plomberie, mais on va pas devenir plombier, right? Faut comprendre que l'agriculture, c'est un métier multidimensionnel, polyvalent, qu'il faut être comme bon à plein de choses et qu'il faut être capable d'acquérir ces compétences-là. Alors, idéalement, on parle de stage, on parle de formation, on parle de auto-apprentissage aussi. Il faut avoir des compétences techniques, il faut avoir des compétences sur le terrain, il faut suivre plus de formations, il faut faire des stages. Idéalement, il faut avoir travaillé dans des fermes, right? Et des fois, en fait, toujours, on a une partie de cette compétence qu'on va développer nous-mêmes sur le terrain, sur notre ferme. Donc, à moins d'avoir plusieurs années d'expérience et une formation adéquate, ou bien plutôt une grande formation, il faut comprendre que le début, il va y avoir une période d'ajustement, d'apprentissage qui va exister, peu importe. Mais peu importe si on a fait des études, peu importe si on est qualifié, peu importe si on a des compétences. Mais il faut savoir que si l'aspect du changement de compétences n'est pas pleinement maîtrisé, ben au début, faut gérer l'amplitude du changement dans le sens que on va y aller plus doucement. On va comprendre qu'au début, il va y avoir une période d'apprentissage où on va continuer à lire, on va continuer à aller visiter des fermes. Il faut qu'on soit capable d'avoir le temps et l'énergie pour faire ça. Le deuxième élément du changement qu'on va regarder quand on démarre une ferme, c'est le risque. Donc ici, on parle principalement du risque financier. C'est-à-dire, il faut faire un budget, il faut faire un bon budget, informer le plus qu'on peut, et en même temps, il faut reconnaître que ultimement, un budget, une prévision, c'est une prévision. On imagine quelque chose et on n'a absolument aucune idée si on va être capable de l'atteindre ou pas. Il faut vraiment se garder des marges de sécurité dans nos budgets. Et le troisième aspect du changement qu'on va regarder en démarrage, c'est l'amplitude. Donc, peu importe ce qu'on fait, c'est un changement. Alors là, on peut regarder le degré du changement et la rapidité qu'on veut l'atteindre. Quand on démarre une ferme, il y a tellement de changements et c'est normal. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est essayer de le comprendre puis essayer de voir quelles sortes d'actions qu'on peut prendre pour le gérer. C'est cette idée de comme, OK, ben, si je gère le risque comme il faut, si j'ai les compétences qu'il faut, ben oui, je peux y aller avec une grande amplitude. Mais si, tu sais, le risque financier est élevé parce que j'ai pas des grandes réserves financières, ou bien, ouais, il manque un peu de compétences, ben alors là, il faut penser à gérer l'amplitude, d'y aller plus doucement, justement pour se laisser le temps, de se laisser du lousse dans le système, tu sais.
Mm-hmm. Fait qu'une bonne façon de se préparer, c'est de regarder ces paramètres-là, puis de les moduler, en quelque sorte. T'sais, chose que nous, on n'a pas fait, par exemple. Là. Oui, on avait les compétences, mais c'était quand même un risque élevé, puis l'amplitude était grande. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, lors de notre démarrage, c'est d'augmenter le temps. D'augmenter la durée, pas s'obliger à produire, à faire tel chiffre d'affaires l'année 1. On aurait pu, par exemple, se dire, OK, on va se laisser une autre année zéro, une autre année de préparation, par exemple. T'sais, ça nous aurait peut-être permis de vivre moins de stress, de vivre mieux notre démarrage, par exemple.
Oui, absolument. Et moi, je l'ai vu comme dans l'autre sens. Que maintenant, on a démarré une deuxième ferme. Après la sabbatique, ben, on a signé un bail de 25 ans sur une terre fédérale dans la ville d'Ottawa. Ben, à 12 minutes du centre-ville, on a démarré une autre ferme. Et c'est incroyable de voir quand on arrive dans une nouvelle ferme avec une décennie d'expérience, avec des moyens financiers, pas énormes, mais avec une bonne gestion du risque, ben on peut se permettre d'aller rapidement. Nous, on a eu accès à la terre au mois de juin, puis on a quand même démarré une saison de production cette année. Mais je dirais pas que c'est un modèle à suivre si le côté des compétences puis du risque n'est pas bien géré.
Mm-hmm. Fait que j'aimerais juste ça qu'on synthétise ces trois notions-là qui sont vraiment utiles pour les gens qui s'apprêtent à démarrer. Peux-tu nous répéter c'est quoi les trois paramètres qui sont comme la nature du changement, puis de quelle façon on peut les faire bouger? Juste pour finaliser, juste pour conclure.
Les trois éléments de la nature du changement, c'est l'amplitude du changement, la quantité de risque, le potentiel de risque et les compétences.
Oui, puis là, les outils qu'on a, c'est de faire bouger ça.
Exactement. Moi, j'aime ça penser, tu sais, c'est comme on a trois côtés, mais faut avoir au moins deux sur trois. Tu sais, faut avoir, mettons qu'on se donnerait une cote, il faut avoir au moins 200%. Tu sais, je sais pas si c'est clair.
Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, moi, je comprends très bien ce que tu veux dire, là. Oui, oui.
C'est ça. Et il faut se rappeler que c'est des concepts et l'utilité de ces concepts-là, c'est de réfléchir et de penser à presque tous les éléments possibles. Et moi, ce que je vois vraiment, c'est que quand on va parler de changement, là, on parle agricole, right, en ce moment, mais que dans une ferme, encore une autre triangle, une autre pyramide, tu sais, c'est comme, il y a le côté humain à la base, et là-dessus, on va mettre le côté agronomique et le côté business. Et c'est comme, il y a ces trois éléments de la ferme qu'il faut considérer quand on va parler de changement. C'est comme, le côté humain, est-ce que tout à coup je vais commencer à travailler avec mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que je vais commencer à travailler avec un parent? C'est tout cet élément humain-là qu'il faut considérer. Il faut considérer le côté agronomique. Est-ce que je connais la terre? Est-ce que je connais les pratiques? Et le côté business. Est-ce que j'ai les capacités de développer ces systèmes entrepreneuriels-là? Et moi, en tant que coach, ben, ce que je vois, c'est comme, j'utilise différents rôles. Encore une fois, on va parler de rôles. Moi, j'ai différents rôles que j'utilise avec mes clients. À la base, c'est le coaching de vie pour soutenir l'humain. Ensuite, pour soutenir le côté agronomique, ben, c'est l'agronomie, c'est de comprendre les sols, c'est de comprendre les pratiques, c'est de voir comment qu'on bâtit des systèmes de production. Et l'autre bord, c'est le côté business, c'est le côté nerd, c'est le côté qui adore les états financiers, puis les chiffres, puis jouer avec les scénarios. Donc, c'est vraiment important de considérer qu'on a, oui, il y a un changement, et en plus, on va dire, hey, ouais, mais on a différents rôles, right? Même la ferme a différents rôles, le côté humain, le côté agricole, le côté financier, business.
Faut vraiment être polyvalent, hein? C'est complètement c'est complètement fou. On peut pas être bon dans tout non plus, hein. Fait que c'est peut-être là que le fait de déléguer devient intéressant, là, de comme bien cerner dans quoi est-ce qu'on est moins bon pour le permettre à quelqu'un d'autre de plus compétent de le faire, là.
Oui, absolument. Et c'est à ça que ça sert la colonne dure à déléguer, right? C'est que des fois les choses qui sont dures à déléguer, ben on va aller chercher un professionnel, on va chercher un associé. On va chercher quelqu'un qui va s'impliquer comme employé à la ferme, mais sur le long terme. Mais c'est de vraiment distinguer entre, c'est-tu mon super pouvoir? Tu sais, mon super pouvoir, c'est comme, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? Moi, c'est quoi ma sauce spéciale que j'apporte à la recette? Tu sais?
Mm-hmm.
Et de reconnaître, OK, c'est quoi nos forces? C'est sont nos forces? Puis oui, des fois, on est obligé de faire des choses qui sont pas de super pouvoirs, qui sont durs à déléguer, mais il faut au moins l'avoir la conscience. Et là, on va revenir au début de la conversation. Quand on sème le sous-conscient, on est en train d'activer une grande capacité de réflexion, puis de trouver des solutions, puis de voir les solutions quand elles arrivent. Parce que c'est pas seulement de trouver les solutions, mais quand on sème une idée, quand on plante une idée dans notre sous-conscient, ben, on est plus capable de la voir quand elle se manifeste autour de nous.
Mm-hmm, exact. Hey, Jonathan, je crois qu'on va comme conclure l'entrevue là-dessus. Je veux te remercier parce que j'ai trouvé notre entrevue extrêmement gratifiante, vraiment différente de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Justement, on a touché plus à quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, puis j'ai vraiment apprécié ça. Merci beaucoup. Je suis convaincue que si les gens mettent en application, pas mettent en application, mais disons expérimentent ce de quoi on a parlé, ils vont... progresser dans leur cheminement puis leur vision de eux-mêmes et de leur ferme. Fait que merci beaucoup de nous avoir outillés davantage. Puis j'espère que les gens vont pouvoir aller voir un petit peu ton travail, là, ce que tu fais puis ce que tu offres comme service.
Ouais, absolument. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours le fun de parler puis ça permet de développer des idées plus. Toi, qu'est-ce que tu as retiré, mettons, pour toi? Tu parles tu souhaites que les auditeurs expérimentent avec certaines idées. Y en a-tu une que toi, tu vois puis que tu dis « Ah ouais, j'aimerais bien essayer ça? »
Ben oui, vraiment. Mais je pense que célébrer dans un premier temps, genre, on l'a fait, mais tu sais, on l'a pas vraiment fait dans notre petit groupe à quatre, là, tant que ça, puis de marquer le coup, là, de vraiment prendre un moment de célébration intime entre nous. Je pense que ça serait vraiment important de le faire dans un premier temps, si j'ai envie d'appliquer cette première chose-là. Sinon, de regarder, de différencier mes rôles puis de leur importance, tu sais, je pense à comme c'est très intime là, mais le temps de couple par exemple, mon rôle en tant que conjointe, tu sais, par rapport au travail, je me dis ben justement là, je pensais à ça tantôt, je me disais ah ben peut-être que ça serait possible d'en arriver à un peu plus de fermeté par rapport à ça, puis en accorder, tu sais, du temps que normalement j'accorde au travail, de me dire non, tu sais, je vais prendre un petit peu de temps de qualité avec mon conjoint qui est aussi mon partenaire pour parler d'autre chose que de la ferme, ou d'en parler mais dans un autre contexte, ça serait vraiment positif pour nous. Fait que ça, je vais le mettre en application dès cette semaine. Dans le fond, j'aimerais vraiment ça, comme en prendre un moment puis faire preuve de fermeté par rapport à cette décision-là. Je sais pas, genre juste faire preuve de gratitude envers moi-même, là. Je pense qu'on est vraiment dur, là. Beaucoup de gens, en tout cas, sont durs. Moi, notamment, je suis vraiment dur envers moi-même. Fait que faire preuve de reconnaissance, je vais le faire. Je te remercie de m'inciter à le faire aussi.
Merveilleux. Ben, passe une belle hiver, puis bonne réflexion et bonne célébration, tout le monde.
Merci!